Radio-Canada a publié en fin de semaine ce qui sera probablement la nouvelle réglementation encadrant Airbnb, mais aussi toutes les autres applications de location de séjour là, hors des grands hôtels. Sauf que je lis ça, puis je trouve ça compliqué. Là, ça va prendre un permis. Il va y avoir des... un numéro à afficher dans les annonces, puis il va y avoir 25 inspecteurs qui vont checker ça. Puis là, Colin, moi, je pensais que ça devait être simple. Puis là, ça s'enligne pour être... J'en suis à me demander si on va se fabriquer une bureaucratie. Celui qui a étudié la question de l'économie du partage, dans ce domaine-là notamment, c'est Guillaume Lavoie, qui est professeur à l'ENAP. Bonjour, Guillaume.
Bonjour.
Guillaume, vous étiez pour qu'on puisse permettre aux gens de louer, par exemple, une chambre dans leur appartement. Il me semble que vous m'aviez parlé de la règle de la brosse à dents.
Oui, et d'ailleurs, c'était la clé sur cet aspect-là dans le rapport que j'ai rédigé pour le gouvernement. Ça semble être l'axe principal qui guide la réglementation. C'est le test de la brosse à dents, c'est-à-dire... Faisons ça simple. Est-ce que c'est là où votre brosse à dents est d'habitude? Si c'est oui, vous devriez avoir le droit de le faire. Les villes ne devraient pas vous empêcher de le faire. Il faut que ce soit simple et rapide. Si c'est non, bien là, on est dans d'autres choses. Et là, ça va vous prendre un peu plus de dédale administratif. Puis il est fort probable que certaines villes vous disent non, vous ne pourrez pas. L'idée derrière ça, c'est de protéger le parc d'habitation. C'est-à-dire, si je fais ça chez moi, j'enlève pas de logement à personne, mais on voudrait pas qu'on achète 2, 3, 4 appartements, mettre les locataires dehors, puis là, ben, créer une crise du logement, là.
OK, mais si, par exemple, j'ai un chalet. J'ai une maison, j'ai un chalet. Quand je suis à ma maison, je loue le chalet. Quand je suis au chalet, je loue ma maison. Est-ce que ça, c'est accepté, selon vous?
C'est là où on va tomber dans la résidence secondaire, puis c'est pas impossible qu'on ait besoin de... faire une espèce d'étape particulière là pour bien attacher tous les fils de la réglementation. Moi, j'ai pas vu le projet de règlement final, mais si c'est pas votre résidence première, ce sera probablement un chalet. Et donc, là, il y aura un autre type de réglementation. Ça va être un peu plus compliqué. Ça devrait être de plus en plus facile, je le pense sincèrement, mais peut-être que ce sera pas là dans un premier cadre. Mais la première chose qu'on voulait faire, l'urgence, la plus importante, c'était de protéger le parc d'habitation, et donc d'abord de dire résidence principale, oui, sans problème, ailleurs, parce qu'attention, c'est pas toujours un chalet. Des fois, c'est la maison qui est en face. Alors, ouais. Comment on fait pour faire cette distinction-là? C'est là où on va tomber dans la réglementation de la résidence secondaire.
C'est ça. Mon collègue Éric dit, si j'achète 2 condos, j'habite en bas, puis je loue celui d'en haut, est-ce que j'ai le droit?
Vous pouvez le faire, mais... C'est-à-dire, où est-ce que vous habitez? Donc, votre collègue en bas, il va pouvoir le faire sans trop de problèmes, très, très facile. En haut, mais là, c'est une résidence secondaire. Si c'est pas loué à quelqu'un qui habite là à l'année, ou encore un logement classique, là, okay. Ben là, on considérera que c'est résidence secondaire et il faudra probablement s'enregistrer comme une résidence touristique. Ça ressemble beaucoup plus à de l'hôtellerie. Ça, j'aime pas le mot, mais en tout cas, quelque chose de professionnel. Et là, ben, c'est possible que la ville dise non. L'intérêt général, c'est de protéger le parc d'habitation.
Guillaume, il y a des choses qui me semblent difficiles à surveiller là-dedans. D'abord, comment est-ce qu'on va vérifier que c'est l'endroit où se trouve la brosse à dents? Deuxièmement, comment on va faire pour vérifier? Il y a des villes qui veulent limiter à 90 nuitées. Comment on va vérifier qu'ils ont fait 90 et pas 91 ou 92? Il me semble que tout ça, là, ça risque de mettre en branle une bureaucratie dont on a... dont on a un peu soupé au Québec.
C'est un très bon réflexe, et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'appelle le test de l'âge adulte, là, qui a été échoué magnifiquement par plusieurs villes, Montréal étant peut-être celle qui l'a le moins bien réussi au Québec. C'est, peu importe la réglementation qu'on va se donner, est-ce qu'elle est applicable? Est-ce qu'on est capable de contrôler ça? Et c'est ça qui va être le vrai test. Alors, la recommandation qui est amenée par le gouvernement, je pense que c'est la chose la plus simple et la plus légère qui nous permet d'avoir le contrôle le plus efficace. C'est-à-dire que, et là, le test, là, quand ça va être mis en place, c'est ce qu'on veut, c'est que vous puissiez vous enregistrer et que tout ça se fasse en ligne et que ça prenne à peu près entre 5 et 10 minutes maximum. Okay. Payez un frais, tout ça est très bien. Et là, vous avez un numéro. Alors, c'est très simple, il n'y a pas personne qui vient chez vous. Vous avez un numéro. Et il faut que le numéro apparaisse à côté de l'annonce. que ce soit sur Airbnb, que ce soit sur Kijiji, sur Facebook, dans le journal, sur un poteau de téléphone, l'infraction devient le fait que le numéro est absent.
Okay. Et
les villes sont pas capables de savoir c'est quoi votre résidence principale. Ils n'ont pas les outils pour ça.
Mais ils peuvent relier le numéro, mais ils peuvent relier le numéro à une adresse.
C'est ça, mais c'est pas les villes qui vont le faire. Ça va être le gouvernement du Québec, par exemple, qui, lui, peut savoir. Mais d'abord, un, on présume que vous avez une seule résidence principale, mais pas 10 000,
ouais.
Mais pas 8, mais juste une. Et là, entre le ministère du Revenu puis les autres ministères, on va pouvoir évaluer très facilement ou beaucoup plus facilement si c'est vraiment votre résidence principale. Puis là, ben, il y aura, j'espère, des pénalités dissuasives très importantes. Mais ce que l'on veut, une bonne loi, c'est quelque chose qu'on peut contrôler facilement.
Donc, ce qu'on va faire, c'est jumeler le numéro d'enregistrement et l'adresse qui vient avec l'adresse principale déclarée par le contribuable au ministère du Revenu. C'est ça?
Puis on partagera sûrement d'autres données. Hein. Vous pouvez pas, ben comment ça se fait que votre permis de conduire est à une place, vous déclarez votre impôt à une autre place. Alors, pour la majorité des ours, à un moment donné, il va avoir juste une résidence principale, puis ça se contrôle plutôt facilement, ça. Et ça va avoir un avantage au niveau des nuisances. Parce que là, c'est le volume, c'est le nombre de jours. Ça se contrôle pas, le nombre de jours. Et c'est okay. Moi, je pense que c'est une erreur, c'est une fausse bonne idée. C'est très séduisant. Sauf que comment je fais pour contrôler ça? Hein? Disons que c'est 90 jours. Ben, quelqu'un fait 90 jours sur Airbnb, puis après ça, disons qu'Airbnb dit, moi, je vais être un partenaire du gouvernement. Après 90 jours, vous ne pouvez plus afficher chez moi. Ben, qu'est-ce qui se passe si vous affichez sur une autre plateforme après? Une autre plateforme après. Il n'y a pas juste une plateforme. Ça, c'est souvent l'erreur des gouvernements qui connaissent moins ça. C'est de penser, ben, je vais faire un règlement avec Airbnb, mais il n'y a pas que Airbnb. Il y en a 25 des plateformes comme ça. Alors, ce qu'on veut, c'est de dire, à partir du moment où c'est la résidence principale, ben, si votre résidence principale, vous allez habiter là une fois de temps en temps, ça va faire moins de jours. Parce qu'à un moment donné, il faut que vous soyez chez vous.
OK. Donc, le numéro d'enregistrement, à vos yeux, c'est une bonne idée. La limite, par exemple, que Québec veut imposer de 90 jours de location, c'est une mauvaise idée.
On comprend l'objectif, c'est noble, mais c'est à peu près impossible à contrôler. Alors, c'est pour ça que les meilleures réglementations dans le monde... Vous savez, au Québec, on est en retard. Alors, on a l'avantage de voir qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui marche difficilement ailleurs. Et c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux, c'est le numéro d'enregistrement unique en ligne, 5 à 10 minutes pour l'obtenir et limité à la résidence principale.
Guillaume, est-ce que les gens qui veulent faire des échanges de maisons, parce que c'est une façon de voyager qui est assez populaire, devront se soumettre à ces règlements-là?
Non, parce que toute la logique de la loi, c'est lorsqu'il y a, c'est-à-dire un échange d'argent. Alors, il n'y a pas d'enjeu, c'est un volume plus réduit. Et comme il n'y a pas d'échange d'argent, mais échange de maison, là, c'est pas encadré comme tel par une réglementation existante ou à venir.
OK.
Pour les locataires. Continuer à faire ça sans problème.
OK. Pour les locataires, ça fonctionne comment? Si moi, je suis locataire d'un logement, est-ce que je dois avoir un permis supplémentaire ou de la paperasse de plus à remplir pour louer une semaine ou deux mon logement?
Imaginons qu'on a toujours, là, qui n'est pas encore en place, mais notre site Internet où on dit 5 à 10 minutes. Alors, vous entrez, vous cochez un peu sur l'honneur. Hein, imaginez votre rapport d'impôt qui est la chose la plus importante que l'on fait. Dans le rapport d'impôt, vous déclarez, vous dites ceci est, voici combien je gagne, voici combien j'ai gagné, mais vous signez en bas en cochant. Okay. Si jamais j'ai pas dit la vérité ici, je m'expose à des grosses pénalités. Alors, on va faire tout ça en ligne, très rapidement, puis on va vous demander, ben, si vous êtes locataire, avez-vous la permission de votre propriétaire? Ce qui est normal dans la loi. Et si vous êtes en condo, ben, avez-vous la permission de votre syndicat de condo? Si la réponse est oui dans un cas ou dans l'autre, mais allez-y, il n'y a pas de problème.
OK, mais si la réponse est oui, si je coche oui, mais qu'en réalité, je n'ai pas vérifié, comment l'État peut-il aller vérifier ça?
Ben là, on va voir, souvent, beaucoup de choses vont fonctionner sur plainte. Soit, il faudra voir comment le formulaire va être construit. Est-ce qu'il faudra mettre en PDF, par exemple, l'approbation de votre propriétaire? On peut faire ça. Mais ou là, on le fait sur déclaration.
Là, on n'est plus dans un formulaire simple, si on fait
ça. Mettre un PDF, c'est pas exactement compliqué, là. Mais sinon, on le fait sur déclaration, oui. Avec des amendes et des pénalités. Okay. Vous savez, la chose la plus importante que l'on fait au Québec pour l'État, c'est le rapport d'impôt.
Oui.
Et c'est après coup qu'on fait du contrôle, et là, les pénalités peuvent être très dissuasives. Soit en termes financiers, soit vous perdez ce droit-là pour, je sais pas moi, un an, deux ans, trois ans. Alors, mais à la pratique, Là, on est plus dans les technicalités de la chose, mais ça reste, le cœur est bon, c'est le bon système. Ce que l'on veut, c'est, si c'est là où vous habitez d'habitude, vous devriez avoir le droit de le faire si c'est la meilleure chose pour tout le monde.
Si j'ai un numéro et qu'il est croisé avec mon adresse principale au ministère du Revenu, le ministère du Revenu va s'attendre à ce que je déclare des revenus. J'imagine que j'aurais intérêt à déclarer même revenu au fédéral?
Absolument. Et d'ailleurs, ben, pour ça, vous savez que Revenu Québec et Revenu Canada se parlent pas mal tout le temps. Là. C'est Revenu Québec, d'ailleurs.
C'est un des rares domaines dans lequel le dialogue est facile.
Oui, parce que tout le monde est dans l'intérêt. Il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. Et là-dessus, ceux qui espéraient ou qui pensaient que quand c'est de l'économie collaborative, c'est de l'économie au noir, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous parce que deux raisons. Un, l'article 1 de Revenu Québec, Revenu Canada, c'est « tout revenu doit être déclaré ». Alors, votre revenu de salaire, vos revenus d'Uber, vos revenus d'Airbnb, même si vous vendez de la drogue, il faut le déclarer. Riez pas parce que Al Capone est allé en prison, pas parce qu'il a tué plein de gens, mais parce qu'il n'a pas déclaré ses revenus.
Et il y a quelques Hells Angels qu'on a eu de cette façon-là également.
Et l'article est bon, faut garder ça. L'autre chose, c'est il va y avoir de plus en plus de partage d'informations entre les plateformes et les ministères du Revenu. Vous savez que Revenu Québec a gagné un prix mondial pour son accord avec la compagnie Uber pour le partage d'informations. Alors, il est tout à fait normal, comme les employeurs transmettent à Revenu Québec l'information à savoir combien leurs employés ont gagné, les plateformes de plus en plus feront la même chose.
Dernière inquiétude que j'ai, si on commence à nous vendre les numéros d'enregistrement au lieu de nous les donner, sous prétexte qu'il faut faire vivre une bureaucratie, notamment des inspecteurs, est-ce qu'on risque pas à un moment donné de passer, vous savez comment les gouvernements sont gourmands, là? Ils vont passer la petite ligne au-delà de laquelle, je veux dire, mange là.
C'est en fiscalité, on dit trop d'impôts tue l'impôt. Hein? Moi, j'ai vécu en Belgique. On dit quand l'impôt devient trop important, ça finit par inciter à la fraude. En administration publique, on va le dire comme ça, trop de formulaires tue le formulaire. C'est pour ça que c'est important que l'enregistrement, tout le monde veut bien faire, du moment que c'est pas le parcours du combattant, là. Alors, si on vous demande 5 à 10 minutes sur Internet, les gens vont le faire. Et par exemple, à Vancouver, je pense que vous payez 50 $ et après ça, c'est 50 $ à chaque année. Okay, considérant combien de revenus vous pourriez faire avec ça, ça me semble tout à fait acceptable. Mais c'est vrai que si demain matin, je vous disais, c'est 500 $, probablement que là, on encouragerait la non-déclaration ou la non-conformité.
Allez voir, il y a un ministre des Finances qui va nous dire, « Ah ben, il faut que ce soit 10% de vos revenus. » Puis là, ça va devenir compliqué.
Moi, je pense qu'on va être autour de à peu près 50 $, là, ce qui serait, je pense, acceptable et raisonnable.
Merci beaucoup, Guillaume.
Au plaisir.
Au revoir. Guillaume Lavoie, qui est chargé de cours à l'ENAP et qui était président du groupe de travail sur l'économie collaborative pour le gouvernement du Québec. C'est dans les prochains jours que la ministre Caroline Proulx va accoucher d'une réglementation qui devrait ressembler à ce que M. Lavoie vient de nous décrire. Je l'appelle Guillaume parce qu'on s'est connus il y a de nombreuses années quand on travaillait dans la même radio. Là. Elle doit accoucher, puis normalement, numéro d'enregistrement, résidence principale, là où il y a un vague, c'est la résidence secondaire. T'as un chalet, t'as une maison. Note que dans beaucoup de couples, quand il y a une résidence secondaire, il y en a un des deux qui déclare le chalet comme résidence principale et l'autre déclare la maison comme résidence principale parce que ça fait en sorte que quand ils vendent les deux édifices, le gain de capital n'est pas imposable.
Ah, ben oui.
C'est pour ça que tu as beaucoup de boomers qui ont un chalet et une maison. Ils vendent leur maison en ville puis s'en vont habiter leur chalet pendant un an. Ça leur permet de ne pas payer le gain de capital quand ils vont revendre le chalet.
Mais je suis pas capable de m'empêcher de penser que même si Guillaume Lavoie nous présentait le processus pour s'inscrire comme quelque chose d'extrêmement simple, quand moi je regarde les règles, je vois rien de simple là-dedans et je suis pas capable de m'enlever de la tête que d'avoir des gens qui se frottent un peu les mains en se disant « ça va en dissuader une coupe ». Puis on est content finalement que le Airbnb, ça sépare pays pas trop, puis d'être capable de contrôler le nombre de personnes qui en font.
Moi, j'aime pas l'idée que dans des villes, par exemple, dans un quartier comme celui que j'habite, Montcalm, y ait tout à coup un bloc de 6 logements qui ne soit plus que du Airbnb.
Pourquoi?
Parce que ça enlève des logements pour les gens qui y vivent. Et quand tu n'as plus de gens qui vivent en permanence dans un quartier, ce quartier-là s'appauvrit. Même si ça te donne l'impression qu'ils font de l'argent, ce quartier-là s'appauvrit. Ça encourage aussi une espèce de spéculation artificielle. Moi, j'aime beaucoup la règle de « Ok, tu veux faire du Airbnb, c'est à ta résidence principale. »
Ouais.
Puis, j'ajouterai une adresse de résidence secondaire parce qu'effectivement, il y en a qui ont un pied à terre en ville et une maison à la campagne ou vice-versa. Mais 50 $ pour avoir un numéro d'enregistrement qui compte sur ton adresse principale et ta résidence secondaire, moi, ça fait mon bonheur.
Il y a un auditeur qui dit oh, « Peux-tu se vendre les numéros de permis comme les chauffeurs de taxi puis se faire rembourser quand dans 6 ans, le prix du permis va être de 100 000 $
Il n'est pas censé être limité. Il est censé avoir autant de permis Airbnb, enfin, peu importe, là. Je ne sais pas comment on va l'appeler, là. Mais il est censé en avoir autant que de résidence principale.
Jusqu'à ce qu'un
gouvernement y voit un pactole, jusqu'à ce qu'un lobby d'hôtelier y trouve un truc, jusqu'à ce qu'un spéculateur se fasse délivrer sous de faux noms ou sous le nom de ses locataires, des permis, jusqu'à ce qu'un tricheur défasse le système. C'est ça le problème. Et là, quand le tricheur défait le système, le gouvernement, son réflexe, c'est de mettre plus de règles, plus de contrôles, puis d'augmenter les permis, parce que là, il faut qu'ils payent les inspecteurs. Le danger, là, c'est toujours, est-ce qu'on va se fabriquer une bureaucratie? Quand je regarde comment la régie des alcools, des courses et des jeux est rendue folle, tu sais, quand ça te prend un permis par allée de quille, quand le permis pour vendre de l'alcool dans les cinémas est différent du permis pour vendre de l'alcool dans des salles de spectacle, puis qu'au bout du compte, ça fait en sorte que dans les cinémas, c'est 18 ans et plus, mais dans les salles de spectacle, c'est pas 18. Ils réussissent toujours à enfantchieniser toutes les situations, parce que plus une situation... plus une situation est enfantchienisée, plus ça prend de personnel pour la contrôler.
Il y a des auditeurs qui ne sont pas d'accord avec ce que tu disais sur le gain en capital.
Non.
L'impôt sur le gain en capital quand tu vends une propriété. J'aimerais ça répondre à l'interrogation, mais malheureusement, je ne suis pas qualifié pour ça.
Parce qu'il me semble, j'ai un ami qui a fait ça. Il est allé s'établir de façon permanente. Il a habité plus qu'un an, là. Mais
parce qu'il y a un auditeur qui prétend être comptable, nous dit, qui prétend être CPA, nous dit un an au chalet donne une année d'exemption sur le nombre d'années de possession.
OK.
C'est que ça serait la nuance.
Bon.
Et pas 100%.
Mais il me semble qu'il y a un tour de passe-passe qui se fait.
Ah, ça serait pas la première fois qu'il y a des tours de passe-passe.
Regarde.
En fiscalité.
Il y a quelqu'un qui m'a déjà expliqué comment les millionnaires arrivent à toucher le supplément de revenu garanti à 65 ans.
Boy.
C'est simple. C'est comment ils font?
Je sais pas.
Ils refusent de prendre leur RRQ, leur régie des rentes du Québec.
Ouais.
OK. Ils ont des économies cash ou en CELI.
Ouais.
Ils retirent leurs économies pour vivre. Alors, tu as 100 000 $ en CELI.
Mm-hmm.
Tu retires ton 100 000 $, tu vas vivre avec assez confortablement. Mais officiellement, tu as zéro revenu. Donc, tu as droit au supplément de revenu garanti en plus de ton fonds de pension fédéral.
Le CELI que tu as retiré, ça compte pas comme un revenu?
Non, c'est des économies que tu retires. C'est comme du cash.
Ah.
Bon, puis il y en a qui ont de l'argent en cash, puis qui retirent cet argent-là pour vivre. Puis pendant ce temps-là, ils touchent juste leur pension du Canada. Ils renoncent à leur RRQ. Tu peux renoncer à ta RRQ jusqu'à je ne sais plus quel âge.
Bon, pendant la pause, je vais appeler ma conseillère financière. Elle va dire un mot. Elle m'a jamais dit ça.
Ils disent ça juste aux boomers pour que vous payiez.